vie en nomade. Le direct.
Bonjour, bienvenue à Pavillon Nomade, la radio follement normale. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Eliane, Étienne, Rose, Asmaret, Marine, Dominique et Julien. Il fait beau et chaud, mais il y a quelques nuages et comme on craint un peu les orages, d'ailleurs il y en a eu un très gros tout à l'heure à Martigny, eh bien on est resté cantonné au studio. À mes côtés donc Marine, en co-animatrice de cette émission et aussi en artiste, puisqu'elle va tout à l'heure nous interpréter un texte d'un poète persan. Bonjour. Et une invitée, bonjour Marine, et une invitée, Corinne Badou, bonjour.
Mais bonjour à vous tous.
Merci de nous rejoindre autour de la table de Pavillon Nomade. Aujourd'hui, c'est l'écrivaine que l'on reçoit, puisque vous avez publié il y a quelques mois votre premier roman que j'ai sous la main, Gerbert d'Archambault, bâtard, moine et voleur aux éditions Presse Inverse. On va bien évidemment en parler de ce Gerbert et de son voyage entre la France et la Suisse. Mais vous êtes aussi apicultrice, vous avez été journaliste dans une autre vie, vous avez été fromagère, vous avez été soignante. Bref, vous avez une multitude de cordes à votre arc. Et je vous propose, Corinne, si vous êtes d'accord, pour faire un peu mieux connaissance, le traditionnel questionnaire sous la forme de « si vous étiez ». Prête ?
Allons-y, départ.
Si vous étiez un pays ?
Ah là là, là vous me mettez une colle, parce que justement j'avais envie de me plonger dans un univers sans frontières avec vous tous aujourd'hui, donc vous m'embêtez avec cette question.
D'accord, moi c'est votre réponse. Si vous étiez un métier?
Allez, tailleur de pierre.
Si vous étiez un art?
La musique.
Pourquoi?
Parce que, justement, dans ma période de soignante, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un service fermé de psychogériatrie. Et j'ai beaucoup travaillé avec le chant, avec la musique. Même que je chante super faux, ça n'a aucune importance. Mais dès qu'on arrive à faire chanter une personne, quel que soit le degré de la démence, il y a des choses qui ressortent, il y a des moments qui vibrent, il y a l'émotion qui revient, et il y a le partage. Et ça, c'est encore mieux que Mozart, si vous voulez. C'est pas la justesse de la musique qui compte, c'est ce que ça fait vibrer dans le corps humain qui m'a complètement fasciné ces dernières années.
Si vous étiez un sens,
L'odorat.
Si vous étiez un souvenir,
ouais, là, je vais aussi dire quelque chose de complètement différent, mais le souvenir, c'est le moment de joie, et c'est pas le moment précis. C'est le sentiment de joie et de plaisir qu'on doit conserver à travers les années, à travers le temps, et non pas forcément focusser sur une personne avec qui on a partagé ce moment-là.
Si vous deviez vous définir, Corinne Badou, que diriez-vous ?
Je crois que je vous déteste déjà. je suis gémeaux, donc les gémeaux c'est déjà double. Je suis myope, donc il y a des choses que je n'ai pas vues et d'autres que je vois très bien. Enfin, je suis un espèce de chenille ambulant avec une immense curiosité et une passion pour le partage et pour les gens et pour les mots peut-être.
On est ici à Malévo. Est-ce que vous connaissez Malévo?
Alors, je connais Malévo parce que, figurez-vous, dans une autre vie, justement, j'ai travaillé à Radio Chablais. Et l'été, quand on préparait le journal, dans la nuit noire, mais les fenêtres grandes ouvertes, tant il faisait chaud, on a souvent eu l'occasion d'avoir un des résidents de Malévo nous rendre visite dans les studios au milieu de la nuit. C'est surprenant, mais c'est des moments d'une force incroyable.
Vous qui êtes autour de la table, est-ce que vous avez déjà envie de poser une première question à Corinne, Rose éventuellement? Il faut prendre le micro pour ça. Il faut vous partager le micro parce qu'on n'a pas assez de micros autour de la table.
Votre livre qui a l'air si passionnant par son sujet, vous avez mis combien de temps à le préparer?
Alors, je pense que c'est quand même quelque part 10 ans de réflexion, 10 ans de maturation. Il y a eu probablement, je ne sais pas très bien, mais 2 ans d'écriture proprement dite. Parce qu'on écrit une première phrase, une deuxième, puis après, on les reprend, les mots. On les malaxe, on refait les phrases différemment. Un texte comme ça évolue tout le temps. Et puis, il y a aussi un laps de temps qui est absolument énorme, c'est le temps de la publication. Dès le moment où vous êtes sûr que vous tenez un bon livre, qu'il est génial, entre nous, j'étais sûr que mon livre était fantastique, mais il a fallu convaincre un éditeur ou des éditeurs, et ça, ça a mis 5 ans. J'ai envoyé 30, 40 manuscrits à plein de maisons, pourtant bien ciblées, etc. Voilà, un jour, quelqu'un l'a lu, un éditeur suisse roman, les Presses Inverse à Lausanne, et ils ont eu le coup de foudre et ils ont accepté de me publier. Donc c'est une longue histoire, un roman.
Une belle histoire.
Merci.
Et c'est une très belle histoire, on va en parler, mais je vous propose de faire une première pause musicale, comme l'on dit, on va écouter une chanson qui peut-être va vous rappeler quelque chose, en tout cas vous allez certainement reconnaître la voix, Corinne.
Einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Une voix reconnaissable entre toutes, celle de Marlène Dietrich. Une chanson choisie spécialement pour vous, Corinne Badou. Dans cette valise dont parle Marlène Dietrich, qu'est-ce qu'on y trouve selon vous ?
Ben, un chapeau de forme, bien sûr, un claque.
Et pourquoi ?
Ben, parce que c'est le cadeau que la fille de Marlène Dietrich m'a offert à la mort de sa mère, Maria Riva. Et elle m'a dit, t'iras très bien, sûrement aussi bien qu'à ma mère. Et elle m'a donné un claque de Marlène Dietrich.
Quel cadeau magnifique ! On a entendu Marlène Dietrich, bon, c'est une immense actrice, c'est une voix exceptionnelle. Quel rapport avez-vous avec votre voix, Corinne?
Alors, c'est une chose extrêmement difficile, parce qu'on ne s'entend pas, comme vous savez. Et j'ai quand même pas mal travaillé à la radio, que ce soit la radio romande, certaines radios locales. Et j'adorais me faire enregistrer pour me réécouter à la maison. Et parce qu'on ne croit pas qu'on est cette personne-là. On est capable de dire, cette personne passe très très bien à l'antenne, un bon tempo, une voix bien posée, qu'est-ce que c'est agréable, sans vraiment croire que c'est soi-même. Mais vous savez, c'est la même chose que l'écriture. L'écriture, quand le livre a été imprimé, je l'ai relu au lit, j'aime bien lire au lit, sans lunettes, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est génial, c'est un vrai livre, c'est super. C'est la même chose que la voix. Et la voix, c'est ce qui permet de faire un lien avec les gens rapidement, très très vite. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'image. Maintenant, on communique avec des vidéos, avec des WhatsApp, des photos, des vidéos téléphoniques. Mais moi, j'ai envie du regard direct, j'ai envie de la voix en direct avec les gens. Et pourquoi pas l'écriture. C'est des moments qui se figent. Mais je vais vous faire une confession à vous tous, parce que ça vous concerne tous. Notre voix vieillit. Et on n'a absolument pas du tout la même voix à 20 ans, la même voix à 40 ans et la même voix à 60. Alors après, ça devient catastrophique. Donc profitez de la voix que vous avez maintenant.
Eliane ?
Et je voulais vous demander, Corinne, comment vous avez testé, parce que moi, je ne suis pas toute jeune, ça m'intéresserait de savoir, la voix à 20 ans, la voix à 30 ans, la voix à 40. Comment vous le savez, ça ?
Alors, je suis un peu comme notre ami Étienne qui prendra la parole tout à l'heure. J'ai été passionnée par la radio, l'outil radio, très très jeune. Et je pense à l'âge de 20 ans, j'ai fait des tests avec une grande voix de la radio romande, Madame Vera Florence, dans un studio du Quai Ernest en Sermé à Genève. Et donc, j'ai été enregistrée à cette époque. Et je n'ai pas été engagée du tout parce que j'avais certainement pas une voix qui convenait. Mais pour l'anecdote, comme lausannoise, j'ai toujours parlé en disant radio vélo moto. Et donc, pour dire radio suisse romande, j'écrivais AUX pour être sûre de ne pas me tromper à l'antenne. Donc, j'ai effectivement eu des enregistrements de moi quand j'avais 20 ans. Après, j'ai travaillé à Radio Chablais, j'ai travaillé à Radio Acidule à Lausanne quand j'avais 35 ans. Et puis à Radio Chablais quand j'avais 50 ans. Et maintenant, j'en ai 65, voilà.
Ok, je vous remercie.
La boucle est bouclée. Merci pour la question.
Étienne, la radio, c'est quelque chose que vous connaissez aussi.
Oui, j'ai aussi travaillé à Radio Acidule. C'était une bonne expérience. Et puis, je n'oublie pas, puis j'ai l'habitude de faire de la radio. J'aime bien parler dans le micro depuis tout petit.
Et quel rapport vous avez avec votre voix ?
Avec ma voix, faut la travailler. C'est un peu comme les artistes aussi, parce que c'est intéressant de parler de ça, parce que avec par exemple Jimmy O'Neill, le chanteur du groupe The Silencers, je trouve qu'il a toujours un peu la même voix, mais ça dépend aussi du son qu'on veut aussi pour ça se travaille aussi avec techniquement, et puis je trouve qu'il a toujours un peu la même voix. Ça fait une trentaine d'années que je suis ce groupe, et puis je trouve qu'il a ouais, il a la même voix. Enfin, c'est l'impression, mais j'avais une question. Est-ce que vous aimez vous écouter ? Parce que moi, à Radio Acidule, je m'enregistrais sur cassette. Après, je m'entendais à la maison, puis je n'aimais pas m'écouter. C'est un peu ce que m'a dit Jimmy O'Neill une fois. J'ai assisté à une émission à la télévision suisse romande. Et puis, avec les Silencers. Et puis, après l'émission, il m'a dit « Ah, j'aime pas me voir à la télévision. » Puis, ça me fait penser un peu à ça. C'est que moi, j'aimais pas trop m'écouter. Parce que j'étais un peu trop perfectionniste, on va dire comme ça.
Forcément, quand on se réécoute après, on se rend compte de toutes les bêtises qu'on a dites, des problèmes de voix qu'il y a eu, etc. Mais dans le fond, on ne peut pas aimer sa voix à travers une machine. C'est pas possible, puisqu'elle résonne en nous, elle nous fait vibrer le corps de l'intérieur. si elle est restituée par, à l'époque, un poste de radio ou maintenant un ordinateur ou une tablette, c'est plus notre voix. C'est devenu quelque chose de mécanique. Et on n'a forcément pas envie de s'approprier cette chose-là. Et pourtant, c'est la nôtre.
Ah, d'accord. Merci.
Il y a encore deux voix qu'on n'a pas entendues autour de cette table. C'est celle de Marine et celle d'Asmeret. Est-ce que peut-être, Asmeret, vous voulez dire quelques mots? Non? Quelques mots? Marine, le rapport à la voix, pour vous?
Alors, ouais, c'est une grande question. Je m'écouter chanter me dérangeait moins que m'écouter parler. J'ai dû m'habituer pendant longtemps à ma voix parler. Et je pense que je me suis habituée parce que j'ai, pendant un séminaire de culture théologique, j'ai fait en fait un projet de podcast où du coup, pendant 10 heures, je me suis écoutée et j'ai refait parce que jusqu'à ce que je sois contente. Et c'est vrai que maintenant, en fait, j'ai plus de problème à écouter ma voix. Ça me va très bien. Je suis vaccinée.
Parlons de ce premier roman, Corinne Badou, Gerbert d'Archambault, bâtard, moine et voleur, paru aux éditions Presse Inverse. D'où est venue l'idée de ce personnage et cette histoire?
Votre émission dure combien de temps?
On a le temps.
Alors, il y a une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, j'ai écrit un conte, c'est le début du livre. Ça s'appelle « Le singe, la taupe et le lapin ». Donc, ce n'est pas du tout un conte pour enfants, c'est un conte universel, c'est un conte philosophique. Et on se rend compte que la taupe est la grande initiatrice, et puis que le singe, à force de travailler sur lui et de découvrir le monde, se transforme en homme. Et c'est le point de départ, en fait, du livre. C'est cette possible amélioration de l'homme, cette possible transformation de devenir meilleur, tout simplement. Et y a une anecdote dans le conte, justement. Le conte doit se situer quelque part au Moyen-Âge. On ne sait pas exactement à quelle période. Mais donc dans le conte, il y a un personnage légèrement aviné qui essaye de voler un sac d'herbes médicinales qui tombe de la charrette d'un curé. Et puis, il s'empare de ce sac d'herbes aromatiques. Et le singe se jette sur ce voleur et le mord. Et le manant s'enfuit et à la ferme intention d'aller au bistrot, à la taverne, et puis boire des coups pour oublier cette mésaventure. Et je dirais que 3 ou 4 ans plus tard, je me suis réveillée un matin avec la phrase suivante: « Mais l'homme n'entra pas dans la taverne ». Et si vous avez lu Gerbert, Marie-Claude Cudéry, vous saurez que c'est la première phrase du roman.
Vous l'avez dit, dans ce roman, on navigue entre le XIIIe siècle et le XXIe siècle. Pourquoi ce choix? Parce que l'écart est très, très large et il faut retomber sur ses pattes, j'imagine, enfin, si je peux le dire ainsi quand même.
Disons que de maîtriser... Au XXIe siècle, c'est une enquête. C'est des personnages assez truculents, qui aiment bien manger, les spécialités locales, qui boivent des coups, qui rigolent, etc. Et il y a 2 historiens... et un compagnon tailleur de pierre. Et c'était plus facile de faire cette enquête-là au XXIe siècle, parce que c'est la période dans laquelle on vit, donc c'est assez confortable. Et puis, évidemment, quelque part, je suis dans chacun des personnages, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, c'était aussi une manière d'exprimer à travers cette histoire ma passion pour les vieilles pierres, pour les mystères. Et ce XIIIe siècle était extrêmement... Il s'est imposé, en fait, le Moyen-Âge était tout à fait ouvert, mais il y a quand même des moments qui me sont... Ce passage où on construit encore un peu de style roman, on essaie d'effleurer un peu des constructions plus audacieuses avec déjà de l'architecture ogivale, et l'art gothique, comme on dit, de passer un peu d'une architecture sombre, rablée, aller vers cette recherche de lumière à travers l'ouverture des fenêtres dans les... C'est ça, c'est l'audace des constructeurs qui m'a plu à cette époque-là, donc au tournant du XIIIe siècle. Ouais.
Il y a aussi 3 concepts qui se croisent dans votre roman, le mysticisme, l'ésotérisme et l'alchimie. qu'est-ce qui vous intéresse dans ces trois formes?
Je crois que c'est la transformation. C'est absolument ça. C'est... Tout se transforme, tout peut se transformer. Et l'homme peut transformer la matière, l'alchimie. On dit qu'on transforme le plomb en or. Est-ce que c'est vrai? Peu importe. Mais en tout cas, le résultat, c'est que l'alchimiste soi-même s'est transformé à travers ses éternels travaux de triage, de fond de la matière, de refroidissement, etc. Donc c'est vraiment la transformation qu'on retrouve aussi. L'ésotérisme, c'est vraiment ce qui est caché. C'est pas du tout de la magie noire ou des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment ce qui est caché. Et dans toute chose, il peut y avoir quelque chose de caché. Dans chaque être, on n'en sait rien. On peut pas tout deviner à un instant T. Et donc, il y a cette recherche. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est la recherche. Je suis probablement anti-dogmatique. J'ai pas envie qu'on me dicte ce que je dois croire et comment je dois interpréter un texte. Mais j'ai une immense curiosité pour essayer de chercher la vérité, en tout cas une vérité qui nous permet de d'aimer mieux les hommes. Quand je dis les hommes, c'est Mensch, l'être humain. Et de vivre mieux avec eux et dans le monde. Et puis cette capacité à se transformer au jour d'aujourd'hui, non de bleu, mais mettons-la en application, cette transformation qui, je vous le dis, à chacun d'entre vous, est toujours possible. À chaque moment, on peut se transformer.
Étienne ?
Oui, avec transformer, se transformer, je pense à... On peut changer, on peut toujours apprendre. Puis on sait pas tout, on sait jamais tout. Donc on peut toujours apprendre et puis toujours changer. Et je trouve que ça, c'est malheureusement, c'est y a pas tout le monde qui pense comme ça. Et c'est bien dommage parce que on change avec le temps, on apprend des choses tous les jours. On sait pas tout, comme je dis. Puis ouais, faudrait peut-être un peu changer aussi, voir un peu les choses autrement, avec de l'espoir et puis on peut être mieux dans la vie, on peut apprendre à être mieux.
Avoir un autre regard. Marine,
comment est-ce que vous décririez votre propre transformation? Donc vous avez maintenant 65 ans, et je serais curieuse de savoir si vous pouviez en quelques phrases décrire qu'est-ce qui s'est transformé en vous avec ces années.
Alors j'ai commencé ma vie à Lausanne comme sale gamine, très mauvaise à l'école parce que je préférais découvrir le monde plutôt que d'apprendre par cœur des devoirs. Et puis, voilà, on m'a un peu botté les fesses et j'ai quand même été jusqu'au bac. Et puis après, je crois que j'ai commencé, comme disait Coluche, j'ai fait un an de droit et tout le reste de travers. Après, ça s'est gâté sérieux. Et j'ai très vite commencé à travailler. J'adorais travailler, d'abord parce que je devais gagner ma vie. Et j'avais quitté le domicile familial, il fallait gagner de l'argent. Et puis j'ai fait des trucs incroyables comme job. Mais justement, toujours en découvrant les gens, en me jetant à l'eau dans des projets incroyables, etc. Mais il y avait partout, tout le temps, cette arrogance de croire qu'on est peut-être un peu meilleur que l'autre, donc on arrive à être le chef, ou on arrive à être le leader, celui qui embarque tout le monde. J'étais aussi celle qui faisait rire les gens. Et avec ça, on est porté dans la vie, en faisant rire les gens, vous vous sortez de n'importe quelle situation, et on botte en touche, etc. Et puis arrive un moment donné, avec l'âge, où on se rend compte que toutes ces valeurs, ces réactions par rapport au monde professionnel, c'est comme aussi l'argent. On prend une certaine distance avec tout ça et on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que d'être le chef, d'être le vainqueur, d'être... Voilà, c'est ce travail sur soi qu'on fait. Certaines personnes le font probablement beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'ai pris le temps, j'ai peut-être commencer à vraiment le faire sérieusement à partir de 45 ans. Et si vous voulez, le résultat, c'est sans donner d'exemple qui pourrait nous situer dans les choses concrètes, j'ai passé de l'arrogance de mener un business plus ou moins dans le monde du journalisme avec succès, avec rire, avec succès, plaisir, bonheur. Et après ma transformation, quand j'étais aide-soignante en psychogériatrie, j'ai eu l'occasion de m'occuper de gens qui, à l'époque, étaient mes propres chefs et qui n'avaient pas su me comprendre et que je n'avais pas su comprendre non plus. Et je les ai retrouvés à prendre soin d'eux dans la démence. Et c'est une boucle extraordinaire. Ça veut dire que oui, on est capable d'être le coquin, le méchant un jour, l'arrogant, et puis de fondamentalement après servir. On ne sert pas une personne, on sert l'être humain. Et je crois que chaque fois qu'on fait un geste, quel qu'il soit, envers un être humain, on aide beaucoup plus qu'une personne en particulier. Et puis vraiment, on se sent porté avec vous tous autour de la table aujourd'hui. On est vraiment dans cet esprit-là, je crois.
Et on vous écoute avec bonheur. Rose, je vous vois très attentive aux paroles de Corinne. Vous avez le livre entre vos mains. Est-ce que vous avez envie d'en lire un petit extrait?
Oui, alors un extrait qui est lui seul est un peu tout ce que l'essence de ce que vous nous avez raconté. Y a-t-il meilleur moyen que se taire pour entourer un secret d'une aura mystérieuse? Le compagnon sourit à cette idée, songeant qu'il se rend justement dans une confrérie qui a l'art de cultiver, si ce n'est le secret, tout au moins la discrétion.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Rose?
C'est un peu un condensé de ce dont nous a... De ce livre, j'imagine, d'après ce que vous nous avez dit. Enfin, un condensé, je veux dire, c'est un tout petit extrait, mais ça parle du secret, de l'art de la transformation, de l'art de l'alchimie. C'est...
Rose, je suis complètement scotchée. J'avais pas vu ça du tout. Et vous venez de me révéler le résumé de mon livre. C'est vrai que cette phrase-là suffit à elle-même. Je vous remercie infiniment.
C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau.
Alors, reste sans voix.
Et on en reste tous, toutes et tous, un petit peu sans voix. Alors, je vais revenir très prosaïquement au livre et vous dire que ce roman nous tient en haleine, de la première page à la dernière. Et personnellement, je trouve que c'est un très bon scénario de cinéma. Vous verriez qui parmi les acteurs actuels pour incarner Gerbert d'Archambault, pardon. Lapsus non révélateur.
Alors, c'est amusant parce que vous n'êtes pas la seule. Donc, un des compagnons est un vrai compagnon du Tour de France. C'est un des enquêteurs du livre. Mais c'est un homme qui existe vraiment, qui est vraiment tailleur de pierre, qui est vraiment compagnon des devoirs. Et... il a assumé son propre rôle, en fait. Il s'appelle vraiment Philippe Chailloux, Tourangeau, l'ami du trait, etc. Et l'autre jour, il me disait, oui, bon, si c'est pour jouer mon rôle, j'accepte de le faire, mais pour jouer Gerbert, il faudrait, figurez-vous, qu'il y a parmi les compagnons un tailleur de pierre, sculpteur sur pierre, qui a ouvert un chantier maintenant. Ils construisent une église, un peu comme Guédelon. À l'époque, ils ont commencé la construction d'une chapelle près de Bordeaux. Et le gars qui pilote ce chantier est beau comme un dieu. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que lui devra jouer Gerbert.
D'accord, donc c'est encore un inconnu.
C'est encore un inconnu, mais il y a tout à découvrir, bien sûr, comme vous le savez, Marie-Claude.
Vous évoquez ce tailleur de pierre, Philippe, que l'on va retrouver d'ailleurs au marché monastique de Saint-Maurice. C'est juste?
Alors ça, c'est une aventure qui est vraiment super chouette. J'étais discutée avec la libraire de Saint-Augustin, Yasmina et Cordonnier, et elle me dit « Ouais, vous avez fait une dédicace qui a cartonné à Martigny, on va pas refaire la même chose à Saint-Maurice. » Et puis, voilà, du genre, Puis si l'été, mon agenda est complet, et puis l'été, il n'y a plus personne, il n'y a pas âme qui vit à Saint-Maurice, on le sait bien. Désert total. Et puis, je dis, mais écoutez, avec Philippe Chaillou, on pourrait venir faire un atelier de taille de pierre, parce qu'il adore faire ça avec les enfants, les adultes. C'est une séance de 45 minutes. Il vous apprend à tailler un motif sur la pierre avec les vrais outils, le maillet, le ciseau. Et vous pouvez après partir avec votre chef-d'œuvre. Et puis, on a proposé ça à la librairie Saint-Augustin, qui a dit, eh mais ça, c'est génial. Et il faudrait vraiment faire ça pendant le marché monastique. Donc, figurez-vous, Gerbert, le bâtard, moine et voleur, va se retrouver au marché monastique à Saint-Maurice. Moi, j'adore cette idée. Je trouve ça génial. Mais évidemment, on sera un peu en dehors. On sera dans les jardins des sœurs de Saint-Augustin, ce qui ne manque pas de piquant, mais qu'on a accepté tout de suite, d'entendre un peu de tac-tac-tac et d'avoir de la poussière. Et là, ça va être génial pour les gens. C'est gratuit comme animation. C'est pour les enfants et les adultes, peu importe. Et tout le monde va pouvoir apprendre à tailler sa pierre. Rose, vous devez savoir que tailler sa propre pierre, ça veut dire aussi travailler sur son oui. fort intérieur et travailler sur soi-même. Donc, c'est à double sens. Donc, chacun pourra tailler sa propre pierre avec le héros d'un roman. Et ça, il n'y a jamais personne qui a pu faire une activité avec le héros d'un roman. C'est rarissime.
Non, je crois que c'est une grande première.
Et donc, imaginez, vous pouvez tailler votre pierre, donc progresser, Étienne, comme on le disait tout à l'heure, devenir meilleur, avec le gars qui passe 200 pages à essayer de vous faire comprendre que oui, c'est possible.
Vous nous rappelez la date du marché monastique, Corinne ?
C'est juste avant la Saint-Maurice, donc c'est le 20 et 21 septembre, donc samedi et dimanche 20 et 21 septembre, donc dans le jardin des Sœurs de Saint-Augustin, à côté de la librairie Saint-Augustin, et ça va être absolument génial de se retrouver dans ce milieu. Et puis, Tourangeau, l'ami du trait, est habillé évidemment en tailleur de pierre du Moyen-Âge. Donc, on aura l'impression de voir s'ériger face à nous une cathédrale.
Il y a un personnage qui n'est pas évoqué dans votre roman, mais dont Marine va nous parler. Un personnage qui a existé, lui, au XIIe ou XIIIe siècle, sauf erreur. C'est un poète persan.
Tout à fait. Donc, c'est Rumi. Nous avons parlé avec vous, Corinne, de mysticisme, d'ésotérisme, d'alchimie, de transformation. Et les personnes qui me connaissent déjà un peu à Pavillon Nomade savent que j'aime faire des ponts, des parallèles entre diverses régions du monde. D'ailleurs, vous n'avez pas voulu nommer de pays, donc on a l'air d'être sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Et je sors en fait d'un séminaire qui mettait en relation la pensée de Saint François d'Assise et de Rumi, qui sont des contemporains du XIIIe siècle. Et étant donné l'état actuel de l'Orient, j'avais envie de rendre hommage plutôt à ce côté-là du monde. Et dans votre roman, Corinne, une phrase au moins fait écho à la poésie de Rumi. C'est la suivante. « Gerbert prit la direction de l'Orient, là d'où vient la lumière. » Et la pensée de Rumi, elle est vertigineuse. Elle se détache particulièrement du lot par son feu puissant, radical, qu'il nommera la religion de l'amour. À cette époque en Perse, on vit une période trouble et violente, celle de l'invasion mongole. Et dans ce contexte, des personnes comme Rumi font le choix du mysticisme. Par la poésie surtout. Un écrivain parle de la plume de Rumi en ces termes, et je ne pourrais trouver des mots plus justes, je pense, pour le décrire. S'il faut garder un bien précieux, tout en se hâtant sur les chemins de l'exil. C'est la poésie qui est choisie, cette poésie d'altitude qui élève l'être, qui appelle à trouver un autre monde dans celui-ci, un monde préservé du sabre et du feu, celui de l'amour, à l'opposé même de la barbarie et du massacre. Rumi nous conduit, non sans vertige, au cœur même de cet abîme où nous devons nous laisser entraîner, cet abîme qui est une montagne, cette chute qui est une élévation. Et j'ai choisi un poème qui illustre bien les paradoxes dont Rumi aime utiliser, en fait. C'est vraiment aussi un poète du paradoxe. Je ne suis ni juif, ni chrétien, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Je ne proviens pas de la nature, ni des cieux en leur évolution. Je ne suis pas de terre, ni d'eau, ni d'air, ni de feu. Je ne suis pas de ce monde, ni de l'autre, ni du paradis, ni de l'enfer. Je ne suis ni d'Adam, ni d'Ève. Ma place est d'être sans place. Ma trace est d'être sans trace. Ce n'est ni le corps ni l'âme, car j'appartiens à l'âme du bien-aimé. J'ai renoncé à la dualité. J'ai vu les deux mondes qui sont un. Un seul je cherche, un seul je vois, un seul j'appelle. Il est le premier et le dernier. Il est le manifesté, il est le caché. Je ne connais nul autre que ô lui, lui qui est.
Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all.
C'est une chanson choisie par vous, Corinne Badou, mais c'est moi qui ai choisi l'interprète. Il s'agit de Susan Boyle. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Elle a participé en 2009 à une émission en Grande-Bretagne qui est l'équivalent de la France à un incroyable talent. Elle n'a pas gagné, elle est arrivée deuxième. Mais sa voix avait conquis le public. Et il y a quelques années, elle a confié à un magazine qu'elle souffrait du syndrome d'Asperger. Je me disais que c'était une jolie manière d'amener aussi cette chanteuse qui a une très très belle voix et qui rejoint aussi cette belle complicité autour de cette table avec cette magnifique chanson de John Lennon, bien sûr, et les mots de Rumi, dit par Marine.
Oui, tout à fait. Merci pour ce petit clin d'œil. Et c'est vrai que... Il y a aussi un bel échange, je trouve, autour de cette table et on voit cette envie qu'on a de décloisonner, de partager, de mettre des parallèles. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir en fait une deuxième invitée, Rose, qui nous a offert au pavillon de la forêt un magnifique arbre qu'elle a nommé l'arbre de vie. Et on avait envie donc de lui donner la parole. Rose m'a aussi dit qu'en fait, elle appréciait aussi particulièrement Rumi. Donc, il n'y a pas de hasard apparemment, que des rencontres, que des rendez-vous. Rose, on vous écoute si vous avez envie de nous partager un peu votre art et alors, votre perception.
Juste avant, c'est vous dire qu'effectivement, il n'y a pas d'image à la radio et c'est tant mieux. Mais nous, on a le tableau en studio et on voit ce magnifique tableau dans les bleus, gris, avec du vert au fond. Enfin, je vous laisse la parole, Rose.
Alors, comme il n'y a pas de hasard, j'ai une pensée pour mon grand-père paternel qui était tailleur de pierre. Et sinon, je sais que Rumi considérait l'amour comme un chemin vers Dieu. Alors, on peut voir toutes ces branches comme des ramifications vers l'amour. Et il... Pardon. Je parle un peu plus dans le micro. Et il est avec des racines profondément enracinées dans le sol. Et les oiseaux sont un peu un point de suspension entre la poésie et puis la nature, avec beaucoup d'oiseaux. Et...
Comment on se retrouve, comment on a cette idée que de faire un arbre comme ceci quand on se retrouve devant un cadre blanc? Comment vous vient l'idée?
Alors, j'ai tout de suite pensé à l'arbre de vie pour les racines, les souvenirs, la mémoire, et puis tous ces chemins, ces ramifications, ces chemins vers Dieu qui étaient si chers à Rumi. Et tout d'un coup, en pensant à l'arbre de vie, c'est un sujet tellement riche et vaste qu'on ne peut qu'être inspiré.
Il y a une pointe de rouge, d'après ce que je vois.
Oui, parce que je voulais mettre une pointe de complémentaire. Et au début, c'était pour faire un orangé. Et après, je me suis arrêtée là, juste avec 4 oranges.
Corinne, qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, vraiment, voilà, les rencontres, pas de hasard. Il ne faut pas oublier que dans la symbolique romane, et notamment sous la plume de Marie-Madeleine d'Hervy, l'oiseau est évidemment le messager des dieux. Donc, je ne suis pas étonnée, Rose, de trouver quelques oiseaux sur vos branches. Et finalement, quelle que soit la manière dont on l'interprète, un arbre ou la flèche d'une cathédrale, c'est simplement un lien vertical entre la terre et le ciel. Et c'est ce qui nous questionne tout au long de notre vie, probablement jusqu'à notre dernier souffle. C'est qu'est-ce que c'est que ce foutu lien, la raison pour laquelle nous, on est sur cette terre et on essaye de s'élever toujours vers quelque chose, que l'on croit en Dieu, que l'on croit en d'autres choses, en l'homme, c'est ce besoin de s'élever. Et là, vous nous offrez un mode d'emploi qui n'est pas si facile, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'oiseaux, il y a peut-être un corbeau, il y a un hibou, il faut voyager à travers vos oiseaux sur les branches, hein, Rose.
Oui, tout à fait, c'est vraiment ça, c'est un élément entre la terre et, entre terre et ciel. C'est ce qui nous relie aux deux, en fait, à la terre, au ciel, à la vie, avec toutes les ramifications. Il y a aussi un côté réseau neuronal.
À fond, oui.
Avec des synapses. Et Et c'est quelque chose qui nous relie à la nature très fort, les arbres, la forêt qui communiquent entre eux. Enfin, les arbres qui communiquent entre eux et la forêt qui devient une entité à part entière. Et donc, c'est quelque chose de très riche à faire, de peindre un arbre. Et vous l'avez si bien exprimé, encore mieux que moi. Vous avez parlé de ma peinture avec beaucoup de... avec une immense justesse de ce que peut représenter un arbre.
Marine ?
Oui, Rose, comment vous est venue l'idée, l'envie d'offrir cette magnifique peinture à un pavillon de soins psychiatrie ?
Alors là, tout d'un coup, j'ai su que je devais le faire.
C'est venu d'un pas, coup, oui. Vous avez une information, voilà. Une intuition.
Et je me suis dit, bon, ben voilà, il a un sens, je vais l'offrir. Et s'il peut faire du bien à des personnes qui le regarderont, il aura atteint son but.
Un grand merci, en tout cas.
Merci.
Asmaret, je vous vois regarder le tableau. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous en pensez ? On va vous passer le micro.
Je ne sais pas parler bien le français.
C'est mais... pas grave, on a le temps, on vous écoute. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous en pensez, ce tableau ? Il faut juste mettre le micro vers la bouche.
Pour moi, j'avais réfléchi sur la Bible. Jésus-Christ, il a dit, si vous êtes fait, si vous êtes resté sur moi, il a donné comme exemple lui comme un arbre et puis le disciple comme le branche.
Comme les branches, oui.
Comme le branche. Et puis j'étais en train de penser à propos de ça quand je regarde.
Oui, je voyais votre regard assez captivé par ce tableau. C'est quelque chose, Rose, qui vous parle de ce que vient de dire Asmaret.
Oui, tout à fait. Ça parle aussi, c'est un peu comme la poésie de Rumi, pour qui l'amour était le moyen le plus sûr de parvenir à une union avec Dieu.
Et c'est vrai que, vu qu'on est dans les parallèles, je ne peux pas m'empêcher de penser au conte zoroastrique de Perse, aussi sur le Simorgh, qui est donc un immense oiseau, et c'est un conte persan où tous les oiseaux du ciel, qui sont guidés par la huppe fasciée, qui est donc le symbole de la sagesse, traversent cette vallée pour aller atteindre le Simorgh, qui est en fait donc l'oiseau merveilleux. Et on comprend dans le conte qu'en fait, c'est une métaphore pour parler de l'unité avec Dieu, et que ces oiseaux traversent ces sept vallées, et qu'une fois arrivés devant ce qu'ils pensaient être le Simorgh, en fait, ils se voient dans un miroir, et en fait, ils comprennent qu'ils sont en fait Dieu, si on veut. Donc, ils ont réussi à arriver à cette unité divine. Donc, c'est vraiment un conte mystique par excellence.
Le langage des oiseaux.
Tout à fait, le langage des oiseaux.
Corinne. Et qui en revient au secret de votre livre.
Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une image complètement récurrente. Il y a un endroit, il y a un bosquet d'acacia, et il y a toujours des oiseaux qui s'envolent ou un merle qui chante, ou etc. Donc il y a un lien récurrent entre un oiseau et un arbre. Mais si on parle d'arbre, c'est quand même un symbole qui est complètement universel. On a Yggdrasil dans le nord, etc. Le Gautama prêchait au pied d'un arbre, d'un banyan, non ? Donc, ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, on n'a pas pu parler de pays, on n'a pas voulu donner de frontières. On a voyagé avec Imagine, les mots de John Lennon, pour que tout aille mieux et qu'on ne se tue plus sur cette terre. Et puis là, on arrive presque complètement par hasard à des symboles totalement universels. Et ça fait une heure qu'on est tous unis dans l'universel. Moi, je trouve ça fascinant. Merci à vous tous.
C'est la magie de votre livre, hein, aussi, Corinne Bahadou. Oui, Eliane.
En fait, j'ai regardé ce tableau il y a quelques minutes, parce que je ne l'avais pas vu en rentrant. Et pour moi, ça dégage une force incroyable. On dirait que les racines, c'est un volcan. Et ça monte le long de l'arbre. Et c'est... Ouais, pour moi, c'est une force incroyable. Comme ça, au premier degré.
Rose.
Merci beaucoup. Ça m'a justement demandé une force incroyable de le peindre, alors que je n'étais pas au mieux de ma forme physique et aussi morale. Et donc, il symbolise vraiment cette force que vous ressentez et cette envie de s'élever malgré tout et d'atteindre les nuages. Absolument. Et le ciel.
Étienne ?
Oui, moi, ça me fait penser un peu à l'espoir. À l'espoir avec toutes ces branches qui attrapent toutes les inspirations du monde pour en faire quelque chose, pour inspirer les gens.
Vous avez envie de...
Tout à fait, c'est l'arbre de l'espérance. Et j'espère qu'il en donnera un peu à tous ceux qui le verront.
Ben merci Rose, merci d'avoir apporté ce tableau, parce que c'est vrai que c'est très difficile en radio de décrire des images, de parler d'images. Et je trouve que vous toutes et tous, vous avez magnifiquement parlé de ce tableau. Il y a plein de choses qui se dégagent de ce tableau et chacun et chacune le reçoivent ses couleurs, ses formes avec ce qu'il est. C'est vraiment magnifique. Merci. On va passer la parole à Eliane, parce qu'il y a, comme tous les jeudis, la chronique d'Eliane. Aujourd'hui, Eliane, vous nous parlez de...
Aujourd'hui, je vais vous parler des chèvres.
Joli thème. On vous écoute.
Merci. Est-ce que vous saviez que nous avons 11 races de chèvres dans notre pays? J'en ai sélectionné 3. La première, c'est la chèvre blanche. Elle est originaire d'Appenzell. Une barbichette, généralement pointue, située sous le menton et la lèvre inférieure, la caractérise. Qui ne connaît pas la comptine de la petite barbichette? On a tous fait ça à l'école.
Je me tiens, tu te tiens par la barbichette.
Merci. Elles sont aussi respectueuses et obéissantes. La deuxième, pratiquement la plus commune, c'est la chèvre alpine chamoisée. C'est la plus courante des chèvres, comme je vous le disais, d'un beau brun. Elle a une ligne noire sur le dos et une jolie petite tête. C'est celle que je préfère. Ces chèvres sont connues pour mettre la pagaille dans le troupeau en toute bienveillance. La troisième, c'est la tessinoise. Elle est noire, robuste et résistante. Elle entretient les prés en rongeant les arbustes et les buissons. Les chèvres sont en général calmes et dociles. Mais il y a toujours des individus qui se démarquent par leur énergie. Avant de conclure cette chronique, je vous partage encore ceci. Les chèvres ont des pupilles rectangulaires, longues et horizontales, ce qui les préserve notamment des prédateurs. Ce sont de très bonnes mamans. On peut donc les laisser sans souci au pâturage avec leurs petits. La rencontre avec cet animal est intéressante car les chèvres sont avides de câlins. Bien évidemment à éviter lorsqu'elles ont des cornes.
Merci Eliane de votre chronique et bravo, parce que c'est une très jolie chronique et je ne sais pas vous, mais moi j'apprends plein de choses chaque fois que vous venez nous raconter des histoires sur les animaux. Les animaux, Corinne ? On n'en parle pas beaucoup dans Gerbert, ou bien si. Oui, dans, oh, bah, évidemment, dans le conte, singe, le singe, bien sûr, lapin, au début, bien sûr, au début. Ouais. Mais après, pas trop, il me semble, si mes souvenirs sont bons.
Oui, mais quelque part, au XIIIe siècle et au XXIe siècle, il y a constamment des références aux contes.
C'est vrai.
Donc, quelque part,
ils sont là.
Les personnages sont devenus autre chose. Ils ont commencé par être le singe, la taupe et le lapin dans le conte. Ils sont devenus autre chose. Donc, il y a un doux mélange. Mais c'est, voilà, c'est l'élévation, c'est l'initiation aussi. C'est, voilà.
On arrive gentiment, gentiment au terme de cette émission. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Je ne sais pas, Marine, Étienne, Asmeret, Rose ou Eliane. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose
qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, parce que ces oiseaux sont toujours en face de moi et on parle de contes, on parle de fables, et on m'a transmis une chanson qui est en fait c'est un poète grec anonyme qui l'a en fait écrite au Moyen-Âge et qui a été traduite en italien. Elle est très courte et ça me donne presque envie de vous la partager si vous avez envie.
Absolument.
Donc, c'est une chanson qui dit: petit oiseau doré aux cris aigus, qui sont perchés dans les arbres, avec l'écho de leur voix qui se répercute sur les falaises et qui se perd dans les vallées. Et je trouve que c'est une très très belle chanson qui fait Dori a tu cieli della cuta voce, liberi per il bosco solitario, in cima ai rami di pino confusamente si lamentano, e chi comincia chi indugia, chi l'ansia il suo richiamo verso i monti e l'eco che non tace, amica dei deserti lo ripete dal fondo del valli, dori a tu cieli dell'acuta voce, liberi per il bosco solitario, in cima, confusamente si lamentano, e chi comincia chi indugia, silenzia, silenzia, e l'eco che non tace, amica dei deserti, lo ripete, ripete, dori a tu cieli dell'acuta voce.
On dit que le silence après Mozart appartient toujours à Mozart. Là, le silence qui s'installe, appartient, vous appartient. Marine, merci pour cette magnifique chanson. Pas d'autres mots à ajouter, ou bien, je ne sais pas, Rose, vous avez envie de dire quelque chose?
On aurait dit une berceuse...
Attendez, prenez le micro.
Ah, pardon. On aurait dit une berceuse celte.
Comme quoi les mondes se mélangent toujours, même quand on est en Grèce ou en Italie.
Il n'y a plus de frontières. Hein. Étienne?
Ouais, les Celtes, j'étais sur les traces des Celtes à Saint-Maurice, c'était très, très bien cette balade. Les Celtes, la musique celtique, c'est aussi magnifique, c'est pour se détendre, c'est très bien. Puis bon, il faut se détendre un peu, se faire plaisir, du bonheur, et puis voilà.
Oui, et puis chanter, écouter de la musique, faites faire de la musique.
Faites-vous du bien.
Je crois que c'est essentiel et c'est tellement beau. Merci à vous toutes et tous qui avez participé. Étienne, Asmaret, Rose, Eliane, Marine, Corinne. Merci à Dominique, merci à Julien. Et je rappelle le titre de votre livre, Corinne, Gerbert d'Archambault, Bâtard, moine et voleur. Ce roman extraordinaire, je me répète, qu'il faut lire, paru aux éditions Presse Inverse. Ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, c'est juste?
Exactement, vous avez donné le nom de la meilleure, c'est celle qu'on a dans le cœur et où on va acheter des livres.
Oui, et je rappelle quand même qu'on se retrouve, on vous retrouve avec le tailleur de pierre Philippe le samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre au marché monastique de Saint-Maurice. Ça va être une journée ou des journées, deux jours extraordinaires. On se réjouit beaucoup de vous retrouver là-bas. Cette émission de Pavillon Nomade est disponible sur le site www.pavillonnomade.ch. Vous pouvez l'écouter, la réécouter quand vous voulez. On a partagé vraiment un moment magnifique. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie beaucoup Rose d'avoir amené son tableau qui a permis d'échanger, qui a permis de découvrir, qui a permis de parler d'images à la radio. Et ça, c'est magnifique.